Épître au Fils du Loup. Baha'u'llah. Votre narrateur, Dominique Marchal. Introduction. Les Bahaïs qui visitent Isfahan ne manquent pas de faire au Takhti Foulad, parmi les tombes échelonnées au pied des collines, au sud du Zendar Road, le pèlerinage à la demeure dernière de ceux qu'ils appellent le sultan des martyrs et le bien-aimé des martyrs. C'étaient deux riches seyyids Bahaï, négociants estimés de tous, et que le grand Moudjahid d'Isfahan, Cheikh Baghi, fit mettre à mort de la façon la plus atroce, pour ne pas avoir à leur payer une dizaine de milliers de tomans qui se trouvaient leur devoir. Ceci se passait aux environs de 1880, et cet acte du cheikh, qui couronnait toute une série de persécutions et de rapines, lui valut, parmi les amis des deux frères martyrisés, le surnom odieux du loup, sous lequel sa notoriété se répandit dans toute la Perse. Il mourut misérablement à quelque temps de là. Son fils, Cheikh Mohammad Taqi, plus connu sous le nom d'Aga Najafi, le seigneur de Najaf, lui succéda dans ses redoutables fonctions. Et, bien que le nombre des persécutions sanglantes ait heureusement diminué en Perse, où la doctrine si élevée de Baha'u'llah ne rencontre plus d'opposition chez les membres les plus ignorants du clergé, ces déprédations lui ont acquis une impopularité aussi vive chez les musulmans que chez les bahaïs, car la largeur de ses idées lui permet de s'emparer indistinctement des biens des uns comme des autres, sans qu'il considère toujours nécessaire d'attenter à la vie de ceux dont il convoite les richesses. Il jouit, paraît-il, d'une des fortunes les plus considérables de la Perse. C'est à lui qu'aux environs de 1890, Baha'u'llah adressa la sévère admonestation que nous publions aujourd'hui, et que nous considérons comme l'une de ses œuvres les plus intéressantes. L'Épître au Fils du Loup, c'est en effet sous ce nom qu'elle est connue parmi les disciples, tire pour nous sa valeur non seulement du fait que c'est un des derniers écrits du prophète, mais encore de ce qu'elle constitue un véritable résumé de son œuvre, fait dans l'espoir d'adoucir un des plus violents adversaires de la cause. Baha'u'llah, en lui rappelant les principales étapes de sa mission, en lui citant des passages de ses œuvres qu'il n'était pas toujours facile de se procurer alors en Perse, montre au Najafi tout le bien qu'il pourrait faire à son pays en se joignant à lui, au lieu de combattre ses idées. À un autre point de vue également, l'ouvrage est intéressant. On sait que dès le début de sa mission, Baha'u'llah trouva contre lui un certain nombre de babis qui ne pouvaient accepter l'impulsion vers l'universalisme qu'il avait donné à la doctrine du Bab. Ils se groupèrent autour de son demi-frère Sobihazal, qui jusqu'en ces derniers temps dirigea contre la cause la plus amère comme la plus stérile des luttes. Cette impuissante opposition n'aurait jamais fait de bruit en dehors des petits groupements persans qui s'en sont servis dans leurs querelles politiques, si des historiens européens, dans un esprit d'impartialité auquel nous nous plaisons à rendre hommage, mais peut-être un peu trop légèrement, n'avaient accueilli dans leurs ouvrages l'écho des calomnies répandues par les Azalis contre les Bahaïs. C'est ainsi que Baha'u'llah et les Bahaïs sont accusés d'amoindrir, de mépriser même, la personnalité du Bab, pour rendre celle de son continuateur et d'empêcher ainsi tous les fidèles babis de se joindre au mouvement. si pareille accusation devait trouver créance, il ne semblait pas que ce pût être auprès de ceux qui, ayant été les premiers à vulgariser en Occident les œuvres de Baha'u'llah, savent au contraire que ce dernier attache tant d'importance à la station de son annonciateur qu'il a fait de l'anniversaire de la déclaration du Bab une des quatre grandes fêtes bahaï. Est-il besoin de s'excuser du mot « annonciateur » Qui pourrait soutenir que les prophéties relatives au paraclet amoindrissent dans l'esprit des musulmans la personnalité de Jésus? En lisant l'épître au fils du loup, un critique impartial verra au contraire que Baha'u'llah tire, pour ainsi dire, des écrits du Bab, les preuves eschatologiques de l'authenticité de sa mission. Il ne pourra concevoir comment une pareille accusation a pu se répandre. Car amoindrir les personnes du Bab, ce serait, pour Baha'u'llah, affaiblir sa propre autorité. Il importe d'ailleurs de comprendre que si Sobhi Hazal a prétendu être le successeur du Bab, ce qu'il n'y a pas lieu de discuter ici, cela ne pouvait vouloir dire qu'une chose, c'est qu'il était à la tête de cette organisation perpétuelle qui devait subsister jusqu'à la venue de la grande manifestation de Dieu annoncée par le Bab. Et le jour où Baha'u'llah assuma la position de Man Yozerullah, le rôle de son demi-frère était fini. Comment prouver la légitimité de la prétention de Baha'u'llah et quel critérium possèdent les contemporains pour reconnaître un prophète? Il semble qu'il soit impossible de trouver une autre règle que celle du Christ. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Nota Matthieu 7, 16. Et les progrès que le bahaïsme a fait, tant en Orient qu'en Occident, paraissent une preuve suffisante. Quelqu'un ayant demandé à Abdu'l-Baha, lorsqu'il était encore emprisonné à Saint-Jean-d'Acre, dans quelles conditions s'était produite la manifestation de son père, il répondit par ces quelques lignes que nous reproduisons ici dans toute leur simplicité. Baha'u'llah, dès son enfance, avait des manières, une attitude et une façon de parler extraordinaires dont tout le monde s'émerveillait. Tous les grands de la Perse disaient « Ce jeune homme est un être étrange ». Et tous attestaient ses vertus, ses perfections, son intelligence, son savoir, sa pénétration, son génie. Même chez ses ennemis, chez ceux qui étaient jaloux de lui, il était universellement établi et reconnu qu'il n'était jamais entré dans une école, qu'il n'avait rien appris dans les classes. Malgré cela, son savoir et ses vertus étaient incontestés. Les érudits de la Perse venaient lui exposer les problèmes qui les embarrassaient. Il résolvait leurs difficultés. Bref, en Perse et même dans tout l'Orient, personne n'aurait nié son savoir, sa perfection, sa grandeur, son pouvoir. Tout ce que disaient ses ennemis, c'est que cet homme était le destructeur des fondements de la loi, que par le pouvoir de son intelligence, de sa pénétration, de sa subtilité, de sa raison, de sa sagacité, par l'éloquence de ses explications et la beauté de ses commentaires, il avait égaré une foule immense et qu'il avait renversé la religion établie. Mais on ne contestait pas la grandeur de Baha'u'llah. Aussi, dès le début de la manifestation du Bab, les amis étaient humbles et respectueux vis-à-vis de lui, se tournaient vers lui et avaient le cœur attiré de son côté. Mais c'est au concile de Bedecht que la sublimité de sa grandeur se manifesta particulièrement. De nombreux amis s'étaient spécialement tournés vers lui. Et tous ceux qu'il rencontrait ou qui entendaient ses paroles étaient impressionnés, tombés dans l'anxiété et l'impatience. Inconsciemment, il devenait humble et enflammé par le feu de l'amour de Dieu. Dans les derniers jours de Téhéran, avant le voyage de Bagdad, une foule de croyants, tels que Mohammad Taqi Khan, le martyr, Soleiman Khan, le martyr, Jenab Azim, le martyr, Mirza Ali Mohammed, le martyr, Mollah Abdul Fattah, le martyr, Mirza Abdul Wahhab, le martyr, Mirza Hussein Kirmani, comprirent que Baha'u'llah possédait une condition supérieure et reconnurent qu'il était une manifestation de Dieu. Il composa une ode dans laquelle on trouve la mention de sa condition supérieure et qui commence par ce vers. La rosée de l'aveuglement tombe de notre attraction. Tous les amis la récitaient avec l'ardeur et l'attraction les plus grandes. Tout le monde, sans exception, l'admirait. Elle était très émouvante. Le premier qui comprit la grandeur et la sainteté de Baha'u'llah et fut certain qu'il allait manifester une cause glorieuse fut Mullah Abdul Karim Kazvini, que le Bab avait appelé Mirza Hamad et qui fut l'intermédiaire entre lui et Baha'u'llah. Il comprit la vérité de la cause. Lorsque Baha'u'llah quitta la Perse pour Bagdad, 9 ans après la manifestation du Bab, il se déclara à ses intimes, et le bruit de la manifestation housseinique se répandit parmi les amis. Car les Persans croyaient qu'après la manifestation du Mahdi promis, aurait lieu la manifestation housseinique, qui est celle de l'imam Hussein martyr. Et tous les Persans sont attachés et croient à Hussein. Le Bab, dans tous ses livres et ses écrits, annonce à chacun la nouvelle de l'an 9. Entre autres, vous atteindrez dans l'an 9 le bien absolu. Vous l'atteindrez en l'an 9. Vous l'atteindrez. Et de même, patientez jusqu'à ce que 9 ans se soient écoulés après le bâillon. Puis dites, il est pur et sacré le Dieu qui est, etc. Bref, les prophéties du Bab pour l'année 9 sont tellement nombreuses qu'on ne peut les citer toutes. Il y eut pourtant quelques individus qui glissèrent hors du droit chemin. Parmi eux fut Mirza Yahya, Seyyed Mohamed Isfahani et quelques autres. Le sermon sur la prière fut révélé en l'an 9, et le commentaire du verset du Coran « Tous les aliments étaient licites aux enfants d'Israël, sauf ceux que Jacob s'était interdit à lui-même » parut cette même année. Lorsque Baha'u'llah vit l'opposition secrète de Mirza Yahya et des autres, il partit seul pour Souleymanie et fut pendant 2 ans en retraite. Mirza Yahya, derrière le voile du déguisement, prenait les plus grandes précautions, par crainte du consul général de Perse à Bagdad. Changeant de vêtements, sous le nom de Haji Ali, il se mit à vendre des souliers à Bassora et à Soku Shoyuk, dans les environs de Bagdad. La cause s'éteignit entièrement et la proclamation cessa tout à fait. Peu s'en fallut qu'elle ne perdît toute renommée et toute beauté. Pendant son voyage à Souleymanie, Baha'u'llah rédigea des écrits, parmi lesquels des prières que nous possédons aujourd'hui. De même, il écrivait des traités sur le voyage vers Dieu pour les érudits et les docteurs de l'islam. Ceci existe également. Il y donne des informations, parmi lesquelles se trouvent les paroles suivantes. Si ce n'était pas contraire à la loi sublime, je ferais mon héritier de celui qui me tuerait. Mais que faire? Je ne possède rien, et le roi de la destinée en a ainsi décidé. Bref, tous les croyants et les oulémas de Souleymanie ont parlé de la science, des vertus, des perfections de Baha'u'llah et se sont mis à l'aimer. Ils disaient que cet homme était unique et appartenait aux élus de Dieu. Lorsqu'il revint de Souleymanie, Baha'u'llah rendit Bagdad lumineux. Une seconde fois, la proclamation divine retentit et la Perse s'agita. Il se tenait dans Bagdad à la disposition de tous. À ce moment, le gouvernement persan persécutait terriblement les Babis. Toutes les peuplades étaient prêtes à fomenter des persécutions et des troubles de toutes sortes. À la fin, inquiet de l'influence de Baha'u'llah, il pensa que Bagdad était trop près de la Perse et que les Persans qui y passent et qui y séjournent étaient trop nombreux. Que pour éteindre ce feu, il fallait envoyer Baha'u'llah dans des contrées plus éloignées. Le gouvernement persan se mit à ce sujet en rapport avec la porte. On fit sortir Baha'u'llah de Bagdad avec les honneurs les plus grands. Et il fit sa première étape au jardin de Najib Pacha, situé en dehors de la ville. Il y demeura 12 jours. Tout le monde, grands et petits, même le gouverneur et les fonctionnaires, vinrent à sa présence sacrée. Ces 12 jours sont les jours de Rizvan. Bref, pendant ces 12 jours, il commença, par des signes et des allusions, à manifester sa mission. Quelques-uns des amis le comprirent parfaitement. D'autres, au contraire, ainsi qu'il était à prévoir, ne le comprirent pas bien. Il arriva enfin à Constantinople, et la soura du pèlerinage fut révélée, dans laquelle il ordonne la procession autour de la demeure de Bagdad. Dans cette soura, sa cause est déclarée, mais il ne dit pas encore « Je suis celui que Dieu manifestera ». Après cela, le gouvernement persan le fit envoyer de Constantinople en Roumélie. Dans ce dernier pays, nuit et jour, il révéla de nombreuses tablettes où il disait « On m'a chassé de mon pays et on m'a exilé à Bagdad, puis on m'a jeté dans un lieu extrêmement lointain afin que s'éteigne la lampe de la direction. Que soit renversée la science de Dieu et que cesse la proclamation divine. » Aussi avons-nous manifesté complètement la cause et rendu l'argument évident. Nous avons lancé la proclamation et brandi le drapeau de la cause de Dieu, afin que chacun puisse voir que ces troubles, cette cruauté, cet exil, ce bannissement ont été cause de la force de pénétration de la parole de Dieu et de sa renommée universelle. Ainsi, la voix de la manifestation du royaume de Dieu est parvenu à l'est et à l'ouest. Cette proclamation générale eut lieu en 1280. Et tous les amis, en mettant à part la transgression de Yahya et d'un certain nombre de ses adhérents, devinrent de fermes croyants. D'Andrinople, à maintes reprises, il envoya des tablettes en Perse. Telle est l'histoire résumée de la manifestation de Baha'u'llah. Hippolyte Dreyfus. Épître au Fils du Loup. Au nom de Dieu, l'unique, l'incomparable, le tout-puissant, l'omniscient, le très sage. Louange à Dieu, l'éternel qui ne périt point, l'immortel qui ne décline point, l'absolu qui ne change point. Transcendant sa souveraineté, il est manifesté par ses signes et caché par ses mystères. Sur son ordre, l'étendard de la parole la plus exaltée se dresse dans le monde de la création. Et la bannière de « Il fait tout ce qu'il veut » flotte sur tous les peuples. Il révéla sa cause afin de guider ses créatures, fit descendre ses versets pour manifester sa preuve et son témoignage, et embellit de l'ornement de la parole la préface du livre de l'homme par ses mots. Le Dieu de miséricorde a révélé le Coran, a créé l'homme et lui a enseigné le langage articulé. Il n'est pas d'autre Dieu que lui, l'unique, l'incomparable, le fort, le puissant, le bienfaisant. Que sur lui, le médiateur suprême, la plume du Très-Haut, nota, le médiateur suprême et la plume du Très-Haut désigne Baha'u'llah, dont Dieu a fait l'orient de ses noms et la source de ses attributs les plus nobles, repose la lumière diffusée depuis le paradis de la munificence et de la bénédiction rayonnant de l'orient de la volonté de Dieu, le Seigneur du royaume des noms. Par lui, la lumière de l'unité brille au-dessus de l'horizon du monde, et la loi de l'unicité se révèle aux nations, qui, la face radieuse, se tournent vers l'horizon suprême et reconnaissent ce que la langue du Verbe a exprimé dans le royaume de sa connaissance. La terre et le ciel, la gloire et l'autorité appartiennent à Dieu, l'Omnipotent, le Tout-Puissant, le Seigneur de grâce abondante. Ô illustre savant, prête l'oreille à la voix de cet opprimé. Sincèrement, il t'exhorte pour l'amour de Dieu et te conseille ce qui te rapprochera de lui en toutes circonstances. Il est vraiment celui qui possède tout, le suprême. Sache que l'oreille de l'homme fut créée pour écouter la voix divine en ce jour que mentionnent tous les livres, les écritures et les épîtres. Purifie d'abord ton âme aux eaux du renoncement. Puis pars ta tête de la couronne de la crainte de Dieu et ton temple de l'ornement de la confiance en lui. Ensuite, la face tournée vers la plus grande demeure, le point autour duquel gravitent tous ceux qui habitent sur la terre, comme le décrète le roi éternel, lève-toi et récite. Ô Dieu, mon Dieu, mon désir, mon adoré, mon maître, mon soutien, ma plus grande espérance et ma suprême aspiration. Tu me vois tourner vers toi, tenant fermement la corde de ta bonté, accroché au pan de ta générosité, reconnaissant la sainteté de ton être et la pureté de ton essence, et témoignant de ton unité et de ton unicité. Je témoigne que tu es l'unique, l'incomparable, l'éternel. Tu n'as pris ni partenaire dans ton empire, ni choisi de père sur terre. Toutes choses créées témoignent de ce que la langue de ta grandeur déclara avant sa création. En vérité, tu es Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. De toute éternité, tu es sanctifié de la mention de tes serviteurs et exalté au-delà de toute description de tes créatures. Ô Seigneur, tu vois l'ignorant chercher l'océan de ta connaissance, l'assoiffé, les eaux vives de ta parole, l'humilié, le tabernacle de ta gloire, le pauvre, le trésor de tes richesses, le suppliant, l'orient de ta sagesse, le faible, la source de ta force, l'infortuné, le ciel de ta générosité, le muet, le royaume de ta mention. Ô mon Dieu et mon roi, je témoigne que tu m'as créé pour me souvenir de toi, te glorifier et servir ta cause. Et cependant, j'ai aidé tes ennemis qui brisèrent ton alliance, rejetèrent ton livre, ne crurent pas en toi et répudièrent tes signes. Hélas, hélas, pour mon obstination et ma honte, pour les fautes et les méfaits qui m'ont privé des profondeurs de l'océan de ton unité, et m'ont empêché de sonder la mer de ta miséricorde. Hélas, trois fois hélas pour mon caractère méprisable et pour la gravité de mes transgressions. Ô mon Dieu, tu m'as appelé à la vie pour exalter ta parole et manifester ta cause. Pourtant, prisonnier de mon aveuglement, j'en fus empêché au point de me lever pour anéantir tes signes et verser le sang de tes bien-aimés. Orient de tes signes, source de ta révélation et dépositaire de tes mystères. Ô Seigneur, mon Seigneur, ô Seigneur, mon Seigneur, et encore ô Seigneur, mon Seigneur, je témoigne que les fruits de l'arbre de ta justice sont tombés en raison de mon iniquité, et que le feu de ma rébellion a consumé les cœurs des créatures proches de toi et fait fondre les âmes sincères parmi tes serviteurs. Ô misérable, misérable que je suis. Ô cruauté, flagrante cruauté que j'ai commise. Malheur à moi pour mon éloignement, mon obstination, mon ignorance, ma bassesse, mon désaveu et mon opposition à ton égard. Pendant combien de jours n'as-tu pas ordonné à tes serviteurs et à tes bien-aimés de me protéger, tandis que je leur recommandais de te nuire et de nuire à ceux en qui tu avais confiance? Et combien nombreuses furent les nuits durant lesquelles, par ta grâce, tu te souvins de moi et me montras ton chemin, tandis que je me détournais de toi et de tes signes, par ta gloire. Ô toi, qui es l'espoir de ceux qui ont reconnu ton unité, et le désir des cœurs de ceux qui sont détachés de tout sauf de toi. Je ne trouve nul secours excepté toi, nul roi, nul refuge, nul havre en dehors de toi. Hélas, hélas, en me détournant de toi, j'ai consumé le voile de mon intégrité, et en te reniant, j'ai déchiré ce qui protégeait mon honneur. Oh, que ne puis-je être au plus profond de la terre, afin que mes méfaits demeurent ignorés de tes serviteurs. Ô mon Seigneur, tu vois ce pécheur se tourner vers l'Orient de ton indulgence et de ta générosité, et cette montagne d'iniquité chercher le ciel de ta miséricorde et de ton pardon. Hélas, hélas, la gravité de mes péchés m'a empêché de m'approcher de la cour de ta miséricorde, et l'horreur de mes actes m'a éloigné du sanctuaire de ta présence. En vérité, je suis celui qui a failli à ses devoirs envers toi, qui a brisé ton alliance et ton pacte, et qui a commis ce qui suscita les lamentations des habitants des cités de ta justice et des aurores de ta grâce en tes royaumes. Ô mon Dieu, je témoigne que j'ai négligé tes commandements pour suivre les injonctions de mes passions, que j'ai rejeté les lois de ton livre pour saisir le livre de mon propre désir. Ô douleur, à mesure que croissaient mes iniquités, ton indulgence à mon égard augmentait. Et plus le feu de ma rébellion devenait ardent, plus ton pardon et ta grâce cherchaient à en éteindre les flammes, par la force de ton pouvoir. Ô toi qui es le désir du monde et le bien-aimé des nations, ta longanimité m'a gonflé d'orgueil et ta patience m'a enhardi. Ô mon Dieu, tu vois les larmes que fait couler ma honte et les soupirs que mon insouciance me fait exhaler. Je le jure par la grandeur de ta majesté, je ne puis trouver pour moi-même aucune demeure si ce n'est à l'ombre de la cour de ta générosité, aucun refuge si ce n'est sous le dais de ta miséricorde. Tu me vois plongé dans un océan de découragement et de désespoir, après que tu m'aies fait entendre ces mots. Ne désespère point. Par ton pouvoir, ma cruelle injustice a coupé la corde de mon espoir, et ma rébellion a noirci ma face devant le trône de ta justice. Ô mon Dieu, tu vois celui qui gît devant la porte de ta faveur, honteux de chercher dans les eaux vives de ton pardon la main de ta tendre bonté. Tu m'as donné une langue pour t'évoquer et te louer. Pourtant, ce qu'elle profère a fait fondre les âmes des élus proches de toi et se consumer les cœurs des êtres sincères parmi les habitants des demeures de sainteté. Tu m'as donné des yeux pour témoigner de tes signes, lire tes versets et contempler les révélations de ton œuvre. Mais j'ai rejeté ta volonté et j'ai commis ce qui fait gémir tes créatures fidèles et tes serviteurs détachés. Tu m'as donné des oreilles pour entendre ta louange, ta glorification et ce que tu révélas du ciel de ta bonté et du firmament de ta volonté. Mais hélas, hélas, j'ai abandonné ta cause et j'ai ordonné à tes serviteurs de blasphémer contre ceux en qui tu avais confiance et contre tes bien-aimés, et j'ai commis devant le trône de ta justice des actes qui suscitèrent les douloureuses lamentations de ceux qui ont reconnu ton unité et qui te sont totalement dévoués parmi les habitants de ton royaume. Ô mon Dieu, je ne sais lequel de mes méfaits mentionnés devant l'océan houleux de ta faveur, ni laquelle de mes offenses déclarées, lorsque je suis face aux splendeurs des soleils de tes dons merveilleux et de tes libéralités. Par les mystères de ton livre, par ce qui est dissimulé dans ton savoir, et par les perles enfouies dans les nacres de l'océan de ta miséricorde, je te supplie, en cet instant, de me compter parmi ceux que tu as mentionnés dans ton livre et décrits dans tes épîtres. Ô mon Dieu, as-tu décrété pour moi quelque joie après ces tribulations, quelque soulagement pour succéder à cette affliction, quelque repos après ces malheurs? Hélas, hélas, tu as ordonné que chaque chair soit réservée à ta mention, à la glorification de ta parole et à la révélation de ta cause. Et moi, je suis monté pour proclamer la violation de ton alliance, y exprimer devant tes serviteurs des paroles telles qu'elles suscitèrent les lamentations des habitants des tabernacles de ta majesté et des résidents des cités de ta sagesse. Combien de fois n'as-tu pas fait descendre la nourriture de ta parole du ciel de ta générosité, et moi qui l'ai refusée? Combien de fois ne m'as-tu pas convié aux douces eaux de ta miséricorde, et moi qui choisissais de m'en détourner pour suivre mon souhait et mon désir? Par ta gloire, je ne sais pour quel péché sollicite ta clémence et implorer ton pardon, ni pour laquelle de mes iniquités me tourner vers la cour de ta générosité et le sanctuaire de ta faveur. Mes offenses et mes péchés sont tels que nul homme ne peut les dénombrer et nulle plume les décrire. Ô toi qui changes les ténèbres en lumière et dévoiles les mystères du Sinaï de ta révélation, je t'implore de m'aider à tout instant à placer ma confiance en toi et à m'en remettre à tes soins. Ainsi, ô mon Dieu, permets que je me contente de ce qu'a tracé le doigt de ton décret et écrit la plume de ton commandement. Tu as le pouvoir de faire ce qui te plaît, et tu tiens en tes mains les rênes de tout ce qui est dans le ciel et sur la terre. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, l'omniscient, le très sage. Ô Cheikh, nota le fils du loup, Cheikh Mohammad Taqi, prêtre d'Isfahan, connu sous le nom d'Aka Najafi. Son père avait causé la mort du roi des martyrs et celle du bien-aimé des martyrs. Sache que ni les calomnies des hommes, ni leurs dénégations, ni leurs ergotages ne peuvent nuire à celui qui s'est accroché à la corde de la grâce et qui a saisi le pan de la miséricorde du Seigneur de la création. Par Dieu, lui, la gloire de Dieu, nota Baha'u'llah, n'a point parlé mu par son désir. Celui qui lui a donné la parole est celui qui a fait parler toute chose, afin qu'elle puisse le louer et le glorifier. Il n'est pas d'autre Dieu que lui, le seul, l'incomparable, le Seigneur de force, l'inconditionné. Ceux dont la vue est perçante, dont les oreilles sont attentives, dont le cœur est éclairé et la poitrine dilatée, reconnaissent le vrai et le faux, et distinguent l'un de l'autre. Récite cette prière qui émane de la bouche de cet opprimé, et médite-la d'un cœur libéré de tout attachement. L'oreille pure et sanctifiée, sois attentif à sa signification, en espérant inhaler le souffle du détachement, et avoir pitié de toi-même et des autres. Mon Dieu, objet de mon adoration, but de mon désir, toi le très généreux, le très compatissant. Toute vie est tienne et tout pouvoir réside dans l'étreinte de ton omnipotence. Celui que tu exaltes est élevé au-dessus des anges et atteint le rang de, en vérité, nous l'avons élevé vers une place sublime. Voir Coran 19, 57. Et celui que tu abaisses est rendu plus vil que la poussière. Que dis-je, il est moins que rien. Ô divine providence, mauvais, coupable et intempérant, nous cherchons malgré tout auprès de toi un séjour de vérité. Voir Coran 54, 5. Et désirons ardemment contempler la face du roi omnipotent. Il t'appartient de commander. Toute souveraineté est tienne et le royaume de puissance s'incline devant ton ordre. Tout ce que tu fais est pure justice. Que dis-je? C'est l'essence même de la grâce. Un seul rayon des splendeurs de ton nom, l'infiniment miséricordieux, suffit à bannir et à effacer du monde toute trace de culpabilité. Et un seul souffle des brises du jour de ta révélation suffit à orner toute l'humanité d'une nouvelle parure. Ô Tout-Puissant, aux impuissants donne la puissance et aux morts accorde la vie. Qu'ainsi ils te trouvent, qu'ils soient conduits vers l'océan de ta connaissance et restent fermes dans ta cause. Si l'une des nombreuses langues du monde, de l'Orient ou de l'Occident, diffusait au loin le parfum de ta louange, elle serait vraiment appréciée et grandement chérie. Si toutefois ces langues étaient dépourvues de ce parfum, elles seraient assurément indignes de toute mention, en parole ou même en pensée. Ô Providence, nous te prions de montrer ton chemin à tous les hommes et de bien les guider. Tu es en vérité le fort, le tout-puissant, l'omniscient, celui qui voit tout. Nous supplions Dieu de t'aider à être juste et impartial, et de porter à ta connaissance tout ce qui était caché aux yeux des hommes. En vérité, il est le fort, l'indépendant. Nous te prions de réfléchir à ce qui fut révélé, et d'être loyal et juste dans ton discours, afin que les splendeurs du soleil de vérité et de sincérité apparaissent. Te délivre des ténèbres de l'ignorance et éclaire le monde par la lumière de la connaissance. Cet opprimé n'a fréquenté aucune école, ni assisté aux controverses des savants. Par ma vie, je ne me suis pas révélé par ma volonté, mais Dieu, de son propre choix, m'a manifesté. Dans l'épître adressée à Sa Majesté le Shah, nota Naziruddin Shah, que l'assiste Dieu, béni et glorifié soit-il, les paroles suivantes se sont déversées de la bouche de cet opprimé. Ô roi, je n'étais qu'un homme comme les autres, endormi sur ma couche, lorsque les brises du Très-Glorieux soufflèrent sur moi et me donnèrent la connaissance de tout ce qui fut. Ceci n'est pas de moi, mais de celui qui est tout-puissant et omniscient. Il m'ordonna d'élever la voix entre ciel et terre. Et pour cela, il m'advint ce qui fait couler les larmes de tout homme doué d'entendement. Le savoir courant parmi les hommes, je ne l'ai pas étudié. Leurs écoles, je ne les ai pas fréquentées. Informe-toi dans la ville où j'habitais, afin d'être assuré que je ne suis pas de ceux qui mentent. Je ne suis qu'une feuille agitée par les vents de la volonté de ton Seigneur, le Tout-Puissant, le Magnifique. Peut-elle rester immobile quand soufflent les vents tempétueux? Non, par le Seigneur de tous les noms et attributs. Il la secoue comme ils veulent. L'éphémère n'est que néant face à l'Éternel. J'ai entendu ces admonitions impérieuses. Elles m'ont amené à célébrer sa louange parmi tous les hommes. En vérité, j'étais comme mort lorsque son ordre fut proféré. La main de la volonté de ton Seigneur, le compatissant, le miséricordieux, m'a transformé. Le moment est venu de te purifier aux eaux du détachement qui coule de la plume suprême. Nota, autre formulation, pour la plume du Très-Haut, désignant Baha'u'llah, et de réfléchir, uniquement pour l'amour de Dieu, à ces choses qui furent envoyées ou manifestées à plusieurs reprises. Ensuite, par le pouvoir de la sagesse et par la force de ta parole, efforce-toi d'éteindre le feu de l'inimitié et de la haine qui couve dans le cœur des peuples du monde. Les messagers divins ont été envoyés ici-bas, et leurs livres ont été révélés dans le but de faire avancer la connaissance de Dieu et de favoriser l'unité et la solidarité parmi les hommes. Mais à présent, vois comme ils ont fait de la loi de Dieu une cause et un prétexte de perversité et de haine. Comme il est déplorable et regrettable que la plupart des hommes s'attachent à leurs possessions et s'y noient, alors qu'ils sont inconscients de ce que Dieu possède et en sont séparés comme par un voile. Dis, ô Dieu, mon Dieu, pars ma tête de la couronne de la justice et mon temple de l'ornement de l'équité. Tu es en vérité le possesseur de tous les dons et de toutes les générosités. Justice et équité sont toutes deux des gardiennes qui veillent sur les hommes. Les paroles saintes et claires qu'elles révèlent sont la source du bien-être du monde et la protection des nations. Voici les paroles qui ont coulé de la plume de cet opprimé dans l'une de ses épîtres. Le but du seul vrai Dieu, exalté soit sa gloire, est d'extraire les gemmes mystiques de la mine de l'homme qui est l'orient de sa cause et le dépositaire des perles de sa connaissance. Car Dieu lui-même, glorifié soit-il, est l'invisible, l'unique, caché aux yeux des hommes. Considère ce que le miséricordieux révéla dans le Coran. Les regards des hommes ne l'atteignent pas, mais il scrute les regards. Il est le subtil, il est parfaitement informé. Voir Coran 6, 103. Les diverses confessions de la terre et les multiples systèmes de croyances religieuses ne devraient jamais être autorisés à susciter des sentiments d'animosité parmi les hommes. C'est, en ce jour, l'essence même de la foi de Dieu et de sa religion. Ses principes et ses lois, ses systèmes fermement établis et puissants, ont émané d'une seule et même source et sont des rayons d'une seule et même lumière. Qu'ils diffèrent les uns des autres doit être attribué aux nécessités changeantes des époques auxquelles ils furent propagés. Saint-toi les reins pour l'effort, ô peuple de Baha, nota les disciples de Baha'u'llah, afin que le tumulte des dissensions et des luttes religieuses qui agitent les peuples de la terre soit apaisé et que toute trace en soit complètement effacée. Pour l'amour de Dieu et de ceux qui le servent, lève-toi pour aider cette sublime et suprême révélation. Le fanatisme religieux et la haine sont un feu dévorant le monde, dont nul ne peut atténuer la violence. Seule la main du pouvoir divin peut délivrer l'humanité de cette désolante affliction. Songe à la guerre qui opposa les deux nations, nota la Russie et la Perse, et à la manière dont les deux adversaires abandonnèrent leurs possessions et leur vie. Combien de villages furent rayés de la carte? La parole de Dieu est une lampe dont la lumière brille en ses mots. Vous êtes les fruits d'un même arbre et les feuilles d'une même branche. Dans vos rapports les uns avec les autres, faites preuve d'un amour et d'une harmonie extrême, ainsi que d'amitié et de fraternité. Celui qui est l'astre de vérité m'emporte témoignage. La lumière de l'unité est si puissante qu'elle peut illuminer la terre entière. Le seul vrai Dieu, celui qui connaît toutes choses, témoigne lui-même de la vérité de ses paroles. Efforcez-vous d'atteindre cette condition sublime et transcendante qui peut assurer la protection et la sécurité de toute l'humanité. Ce but surpasse tout autre but, et cette aspiration est la reine de toutes les aspirations. Toutefois, aussi longtemps que les nuages épais de l'oppression qui obscurcissent le soleil de la justice ne se seront pas dissipés, il sera difficile à la gloire de cette condition d'être dévoilée aux yeux des hommes. Ces épais nuages ne sont autres que les religieux de Perse, propagateurs de vaines imaginations. Nous avons parfois parlé le langage du législateur et parfois celui du chercheur de vérité et du mystique. Notre intention suprême, notre souhait le plus élevé a toujours été cependant de révéler la gloire et la sublimité de cette condition. En vérité, Dieu est un témoin suffisant. Fréquentez tous les hommes, ô peuple de Bara, dans un esprit d'amitié et de fraternité. Si vous possédez quelques vérités, joyaux dont les autres sont privés, partagez-la en des termes d'une bonté et d'une bienveillance extrême. Si elle est acceptée et réalise son dessein, votre objectif est atteint. Si quelqu'un la refuse, laissez-le à lui-même et suppliez Dieu de le guider. Gardez-vous de le traiter avec malveillance. Un langage bienveillant est l'aimant naturel du cœur des hommes. C'est le pain de l'esprit qui donne un sens aux mots. C'est la fontaine lumineuse de la sagesse et de la compréhension. Par religieux, dans le passage cité plus haut, nous entendons ces hommes qui, extérieurement, se parent des habits du savoir, mais qui, intérieurement, en sont dépourvus. Citons à cet égard, de l'épître adressée à Sa Majesté le Chat, certains passages extraits des paroles cachées qui furent révélées par la plume d'Abba, nota, la plume du Très-Glorieux, autre appellation pour la plume du Très-Haut ou la plume suprême, et Baha'u'llah, dont les écrits sont inspirés par l'Esprit-Saint, sous le nom de Livre de Fatimi. Nota, il s'agit selon la tradition du livre révélé par Gabriel pour Fatimé, destiné à la consoler de la mort de Muhammad, son père. Ce livre, selon les chiites, serait en possession du Kaïm. Comme ce dernier est caché aux yeux des croyants, Baha'u'llah lui a donné le nom de parole cachée. Que les bénédictions de Dieu soient sur elle. Ô vous qui êtes sots et qui cependant passez pour sages, pourquoi prenez-vous l'apparence de berger alors qu'en vous-même vous êtes devenus des loups acharnés contre mon troupeau? Vous êtes comme l'étoile qui se lève avant l'aube et qui, bien qu'elle paraisse lumineuse et radieuse, égare les voyageurs de ma cité et les conduit sur le chemin de perdition. De même, il dit, ô vous qui êtes saints en apparence, mais intérieurement corrompus. Vous êtes comme de l'eau claire, mais amère, apparemment pure comme du cristal, mais dont pas une goutte ne sera acceptée après avoir été éprouvée par le divin examinateur. En vérité, le rayon de soleil éclaire identiquement la poussière et le miroir. Mais leurs images réfléchies sont aussi différentes que l'étoile l'est de la terre. Que dis-je, cette différence est incommensurable. Et il dit également, ô essence de désir, bien des fois à l'aurore, depuis les royaumes de l'infini, je suis venu vers ta demeure et t'ai trouvé sur la couche de repos occupée par d'autres que moi. Aussi, tel l'éclair de l'esprit, je suis retourné au royaume de gloire céleste. Et dans mes retraites d'en haut, j'en ai soufflé mot aux armées de sainteté. Et il dit encore, ô esclave du monde, que de fois, à l'aurore, la brise de mon affectueuse bonté est passée sur toi, et t'a trouvé profondément endormi sur la couche de l'insouciance. Alors, pleurant sur ta condition, elle est repartie d'où elle était venue. Cependant, les savants qui sont vraiment parés de l'ornement du savoir et de la bonté sont en vérité comme une tête pour le corps du monde et comme des yeux pour les nations. Les hommes ont toujours été guidés par des âmes aussi nobles et le seront toujours. Nous supplions Dieu de daigner les aider à faire sa volonté et à suivre son bon plaisir. En vérité, Il est le Seigneur de tous les hommes, le Seigneur de ce monde et de l'autre. Ô Cheikh, nous avons appris que tu t'es détourné de nous et que tu t'es rebellé contre nous. Tu as commandé au peuple de me maudire et tu as ordonné de verser le sang des serviteurs de Dieu. Que Dieu récompense celui qui a dit « J'obéirai de mon plein gré au juge qui a si étrangement décrété que mon sang soit répandu à Il et à Aram. » Nota, tiré d'une ode de Ibn Ifarid, poète soufi égyptien. Aram signifie sanctuaire. Cela fait référence à deux zones proches de la Kaaba, dans lesquelles tout acte de vengeance sanglante était interdit, et aussi à 4 mois du calendrier arabe, auquel s'appliquait la même interdiction. Il désigne la zone et les mois non protégés du calendrier arabe. En vérité, je le dis, l'âme chérit et le cœur désire tout ce qui advient sur le chemin de Dieu. En son sentier, le poison mortel est miel pur, et chaque tribulation gorgée d'eau cristalline. Dans l'épître à Sa Majesté le Shah, il est écrit « Par celui qui est la vérité, je ne redoute aucune tribulation sur son chemin, ni aucune affliction dans mon amour pour lui. En vérité, Dieu a fait de l'adversité une rosée matinale sur son vert pâturage, et une mèche pour sa lampe qui éclaire le ciel et la terre.